Dans plusieurs de vos livres, vous avez étudié la libéralisation politique à l'œuvre dans certains pays africains, le rôle des élites et la représentation politique, ou la liberté de parole, par exemple. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de transition démocratique en Afrique ?
En fait, le processus de démocratisation en Afrique semble être aujourd'hui probablement la question la plus compliquée à essayer d'analyser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord la trajectoire historique de l'Afrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que cela soit aujourd'hui une appréciation un peu banale, c'est que le poids de la colonisation, le poids du système colonial dans, en fait, l'organisation de la gouvernance est tel qu'aujourd'hui, l'Afrique et les Africains sont toujours en train de mettre en ordre certaines de ces institutions, certains comportements et une certaine manière, en fait, de se mettre ensemble, si vous voulez. Et il y a plusieurs dimensions qui sont en jeu. Il y a la dimension économique, l'accès aux ressources. Il y a la dimension religieuse, la cristallisation, en fait, des différences, en particulier entre musulmans et chrétiens. Mais il y a aussi les cristallisations qu'on appelle les cristallisations ethniques, cristallisations régionales, etc. Et les formes de représentation que les administrations coloniales, aussi bien françaises, anglaises que portugaises ou belges, ont promues, sont des formes de représentation qui ont sollicité, si vous voulez, ces identités primaires. Et ont fait qu'il y a une culture africaine qui ne s'exprime qu'à travers ce langage-là. C'est-à-dire que les formes politiques dans lesquels les Africains s'expriment sont en général des formes qui renvoient à ces types de cristallisations qui ont été fortement structurées par la période coloniale, qui ont été fortement structurées par les rapports que les différentes communautés ont. Et c'est ça l'un des paradoxes les plus intéressants quand on se situe dans une logique française. Le communautarisme est probablement la forme d'expression politique la plus évidente chez les Africains. Ce qui, en fait, dilue le politique dans des formes qui sont plus des formes de confrontation que des formes de compromis. Dans des formes qui entraînent des comportements par rapport à la chose publique qui sont des comportements privés. Ce n'est pas parce que les gens le veulent, c'est parce que c'est comme cela que cela a toujours marché. Ce qui fait que le deuxième moment, qui est le moment de la lutte pour l'indépendance, est un moment intéressant parce que c'est un moment qui va essayer à la fois de solliciter le vocabulaire de la représentation, entre guillemets, de type universaliste, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles les nationalistes s'appuient, l'élite en fait, sont des valeurs qui sont à la fois des valeurs du politique européen, des formes de représentation citoyenne, de la lutte pour la justice, la lutte pour la démocratie, la lutte pour un homme, une voix, etc., etc. Mais les formes de mobilisation restent des formes de mobilisation de type ethnique, de type religieux, etc. C'est-à-dire que les gens qui ont été au cœur de la coalition qui a porté la lutte pour l'indépendance, en fait, ce sont des gens qui se sont battus plus pour leurs intérêts privés, pour les intérêts de leur communauté, que pour une forme très abstraite, si vous voulez, de démocratie. Et avec l'avènement des indépendants, ce qui s'est passé, c'est que ces coalitions ont explosé face au tiraillement et la lutte pour le contrôle. Et ça a promu, si vous voulez, ce qu'on a appelé les autoritarismes africains, la violence, en fait, le parti unique, le syndicat unique, etc. Et malheureusement, ces formes uniques et exclusivistes de représentation et d'organisation qui ont été soutenus en fait par les anciennes puissances coloniales, qui ont été soutenus par les Nations Unies pour réduire les différentes fractures ethniques, religieuses, régionales. Parce que les gens pensaient qu'il fallait créer des nations, mais créer des nations en homogénéisant pas, en respectant les différences et en créant en fait des formes multiculturelles, multireligieuses, etc. En fait, ce que ça a entraîné, c'est la crise au sein des élites, de toutes les élites de type occidental, comme on dit, aux élites qui sont des élites traditionnelles, et des batailles qui ont donné en fait les violences barbares qu'on a vues en Afrique ces 20 dernières années. Mais il y a aussi autre chose qui a accompagné cette crise, ces crises violentes et cette espèce d'enracinement autoritaire, c'est que les Africains ont continué à se battre pour être représentés, à se battre contre l'injustice, etc. Et quand on regarde dans les années 80 ce qu'on a appelé des transitions démocratiques, contrairement à ce qu'on a dit, et contrairement au fait qu'on les ait liés exclusivement, disons, à la fin du système mondial bipolaire, disons, à la chute du mur de Berlin, à ce que Fukuyama a appelé la fin de l'histoire, et l'imposition du libéralisme, en fait, ce sont les luttes quotidiennes des Africains qui ont entraîné le desserrement, en fait, du système totalitaire. Et les Africains ont payé effectivement des prix énormes. Mais malheureusement, et c'est ça le problème, ces desserrements n'ont pas été accompagnés d'une restructuration du système politique. On a desserré le système, mais on les a desserrés en adoptant, si vous voulez, des rituels, qui sont des rituels politiques, les élections. Et les élections, le paradoxe des élections, c'est d'avoir promu des systèmes d'autoritarisme maintenant démocratique et des systèmes qui ont entraîné une plus grande cristallisation, mais dans des logiques qui sont aujourd'hui des logiques beaucoup plus ouvertes. Pour moi, les sociétés africaines sont encore à la recherche de systèmes ouverts. Elles essaient de devenir des sociétés ouvertes, mais des sociétés ouvertes qui reconnaissent la différence et qui constituent à leur manière des espaces publics, des formes du bien commun, qui peuvent passer par des voies qui sont assez étonnantes, comme dans certains pays, les voies religieuses, mais qui sont probablement des réinventions. Et je préfère, moi, des sociétés ouvertes que des sociétés démocratiques, à cause de l'enserrement de la démocratie dans des logiques institutionnelles, un vocabulaire et une philosophie, en fait, qui restent prisonnières, si vous voulez, qui restent prisonniers de l'histoire, rapidement, de l'histoire de l'Occident. Et on le voit, en fait, quand les gens disent, surtout pour les sociétés africaines francophones, que le discours de Mitterrand à la Baule a joué un rôle considérable, les gens se rendent compte que ce discours a essayé de contrôler un mouvement qui semblait déborder, si vous voulez, de ce que la France concevait comme les formes les plus simples de démocratisation en Afrique francophone. Donc c'est une manière plutôt de canaliser un mouvement que de l'impulser.
Donc, je reviens à une question que vous avez abordée en filigrane dans votre réponse. C'est la question de la corruption en Afrique, de la morale publique et des problèmes de gouvernance. Vous avez écrit un article qui s'intitule « Les poissons ne peuvent pas voter un budget pour l'achat des hameçons ». Et dans cet article, vous écrivez que le concept de corruption appartient, je vous cite, « à l'effort d'objectivation d'un continent » qui semble résister à la mise en ordre scientifique et à la normalisation. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est que est-ce que cette phrase, est-ce que cet article, c'est une manière pour vous de penser la corruption ou de la dédramatiser ?
C'est les deux. En fait, quand vous regardez l'appareillage théorique, qui est appliquée à l'Afrique et aux sociétés africaines, on peut très rapidement voir qu'il y a en fait des cycles qui sont, si vous voulez, qu'on pourrait appeler des cycles épistémologiques d'invention, pour reprendre le mot de Moudimbé, d'invention de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique est toujours révélée dans le texte arabe avant ou dans le texte européen. Mais le langage que les Africains eux-mêmes mettent en œuvre dans leur propre, pour rendre compte de leur propre pratique, ce langage-là, on ne l'interroge pas suffisamment. Donc ma réaction, c'est à la fois de revenir à la saisie du langage dans lequel on décrit et analyse l'Afrique, mais aussi de la multiplicité des langages qui sont utilisés, surtout le langage des Africains. Et là, on peut se rendre compte pourquoi. Dans le premier mouvement, l'idée c'est, est-ce qu'on peut comprendre l'Afrique dans ce que, en fait, un historien américain de la Chine appelle une comparaison réciproque, c'est que reciprocal comparison. Et ce qu'il appelle une comparaison réciproque, c'est de ne pas d'appliquer les formules développées dans d'autres réalités à des réalités différentes, mais d'essayer non seulement de faire cela, mais en même temps d'utiliser les réalités que l'on analyse pour comprendre la comparaison, pour comparer la comparaison, si vous voulez. C'est-à-dire, donc, il y a une espèce de réciprocité. Il n'y a pas un appareillage théorique appliqué à l'Afrique à partir de l'Amérique latine ou de l'Asie, mais il y a cet appareillage qui, en fait, engage aussi quelque chose d'autre pour changer. Et quand on fait cela, on se rend compte d'une chose. Et dans cet article que vous citez, c'est ça que j'essaie de faire. Si vous lisez les historiens, si vous lisez les historiens de l'Antiquité romaine...
J'allais vous parler de Paul Venn, que vous citez aussi.
Oui, et si vous lisez Paul Venn, ce que Paul Venn dit, c'est que, en fait, l'Empire romain est inconcevable sans la corruption. Donc la corruption est une forme administrative. Ce qu'on retrouve aussi chez, en fait, les spécialistes de l'Asie quand ils parlent de corruption productive. Et vous voyez comment la comparaison réciproque peut nous apprendre des choses. Comment la corruption permet à une administration de fonctionner par un système d'allocation et de réallocation, d'inclusion et d'exclusion, qui fait que les gens ne sont jamais en dehors, mais arrivent toujours à tirer profit d'un système dont l'essence, finalement, est cela. Mais on le retrouve aussi dans le système américain avec le spoil system. Donc, plus que la corruption qui est devenue aujourd'hui l'élément par lequel on montre que l'Afrique dysfonctionne, alors que quand on fait notre comparaison réciproque, on se rend compte qu'elle ne dysfonctionne pas. Au contraire, on devrait comprendre pourquoi cette forme-là ne fonctionne pas, entre guillemets, de manière productive. Ou pourquoi cette forme-là n'est pas contrôlée en sorte qu'elle ne mette pas en cause la survie du système. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'appropriation des formules administratives et politiques dites universelles en Afrique à cause précisément de cette extraordinaire résilience de la culture politique africaine, ce qu'on doit faire, c'est comprendre comment cette culture politique peut s'approprier ces formules administratives et politiques et comment les formules administratives et politiques peuvent effectivement, progressivement, mettre en forme pour les inclure ces cultures politiques-là. Et c'est ça qui est intéressant quand on lit, en fait, les spécialistes du politique en Afrique. Certains vous disent que les systèmes politiques ne marchent pas parce qu'ils sont étrangers aux sociétés africaines. Et d'autres vous disent, avec le clientélisme et la néopatrimonialisation, au contraire, ces formules ne marchent pas à cause de la force des cultures politiques africaines. Donc il faudrait qu'on sache. Et pour moi, mon invitation, c'est de prêter une plus grande attention à ces formules de convergence et de divergence entre des cultures qui sont des cultures qui sont là et des formules qui sont des formules administratives qui sont beaucoup plus des formules métasociales qu'elles ne sont en fait des expressions de logique qui sont des logiques culturelles, contrairement à ce que l'Europe dit en fait. Les formes des systèmes politiques sont des méta-constructions, sont des fabrications qui sollicitent mais aussi contredisent les logiques qui sont en cours dans les sociétés. En Afrique, on essaie vainement de faire l'un sans tenir compte des formules des cultures politiques, où on essaie de solliciter des cultures politiques qui ont profondément changé, contrairement à ce qu'on croit aussi, et qui ont été profondément manipulées aussi bien par les administrations coloniales que par les administrations post-coloniales. Donc pour moi, c'est ça, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que c'est très simple de condamner sur cette base, qui est beaucoup plus une base morale, et qui empêche de voir les mécanismes de la corruption. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et la troisième chose, c'est que ça devient finalement un territoire à partir duquel on observe l'Afrique. Mais on observe l'Afrique à partir, en fait, d'un point de comparaison, d'une référence qui ne peut permettre que, en fait, des condamnations qui sont des condamnations d'ordre moral, donc qui ne changent pas grand-chose.
Je voudrais vous poser une autre question sur la liberté. La liberté pour un Africain, et prenons l'exemple du Sénégal. Pour un jeune Sénégalais, à votre avis, vivre libre, est-ce que ça veut dire miser sur le développement économique sur place, au Sénégal, mener un combat politique et intellectuel dans la lignée de quelqu'un comme Senghor, par exemple, ou est-ce que c'est émigrer ?
En fait, je ne pense pas qu'il soit possible d'opérer un choix, qui est un choix qui se pose en termes de parmi ces trois possibilités, il faut choisir une à l'exclusion des autres. C'est les trois, en fait. C'est ça la liberté. Parce que, pour moi, la liberté, c'est la liberté de pouvoir non seulement s'exprimer, mais de pouvoir se réaliser. De pouvoir se réaliser dans ses rêves les plus fous, mais dans une communauté. De pouvoir, et dans les sociétés africaines, c'est essentiel, conjuguer harmonieusement à la fois la réussite individuelle, et ça c'est important, mais aussi le sens de la solidarité communautaire. Le drame aujourd'hui, c'est que on a inculqué aux Africains une espèce de philosophie complètement débile, qui est la philosophie que vous êtes des communautaires, que l'individualisme est mauvais en soi. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est des sociétés où la réalisation du collectif ne pourra se faire que par une célébration et un culte de l'individu, pour montrer que la réussite individuelle peut alimenter la réussite collective et que le collectif peut servir à l'individu et non pousser tout le monde vers le bas. Et malheureusement, y compris chez les Européens, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que quand ils disent, il faut que les gens se réalisent sur place. Mais les gens oublient une chose, l'Europe ne s'est pas réalisée seulement sur place. L'Europe s'est réalisée par la conquête et par l'exportation de ces gens. L'Australie, le Canada, les Amériques ont été peuplées aussi par les Européens. Donc pourquoi refuserons-on aux Africains justement la possibilité à la fois d'amasser des ressources qui ne sont pas seulement des ressources économiques et financières, mais qui sont aussi des ressources intellectuelles, des ressources culturelles, des ressources morales, des ressources religieuses. Et ça, C'est la mobilité qui le permet. C'est vrai, la mobilité dans les bonnes conditions. Et la troisième chose, c'est bien sûr d'assurer, c'est ça le développement sur place, d'assurer un environnement dans lequel les gens peuvent effectivement cultiver à la fois en fait la recherche d'un bonheur individuel, la recherche d'un bonheur collectif, mais la possibilité aussi d'un engagement avec le monde. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est que les Africains ont une culture du départ, qui est une culture du départ avant les Européens. Et la plus grande liberté qu'il y ait jamais eu dans les sociétés africaines, bien avant les Européens, c'est que la liberté s'est toujours exprimée spatialement. Quand on n'est pas d'accord à l'intérieur de sa communauté, on partait plus loin et on créait une autre communauté. Et ces possibilités ont été des possibilités restreintes. Donc il y a une culture du mouvement en Afrique. Et cette culture du mouvement a eu quelquefois des formes terribles de xénophobie qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud. Et cette culture, cet effet s'exprime dans un cadre qui est un cadre plus large, parce que l'Afrique est dans le monde. Et probablement les jeunes Africains sont probablement les jeunes qui sont le plus ouverts au global, parce qu'ils viennent de sociétés qui se sont toujours trouvées dans des situations où la migration a été la réponse. Et ça, on n'y peut rien. Je veux dire que ça, ce sera présent en Afrique encore pour une, deux, peut-être trois générations.
Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de votre travail et du champ intellectuel dans lequel il s'inscrit. Oui. Aux États-Unis, il y a un ensemble de travaux très dynamiques qui s'appellent les African Studies. Mm-hmm. En Europe et en France, je dirais que ça n'existe pas, pour faire bref, ou en tout cas, l'expression ne rencontre aucun écho. Mm-hmm. Alors, avant de vous interroger sur la cause de ce contraste, je voudrais que vous nous disiez votre définition des African Studies.
En fait, la définition la plus simple des African Studies, c'est les études qui s'inscrivent sur le territoire géographique. Et c'est né, si vous voulez, dans le contexte de la guerre froide aux États-Unis, qui est le contexte dans lequel, en fait, l'Amérique, qui n'était pas en dehors de ses grandes aventures à Cuba et les Philippines, n'était pas une puissance coloniale. Et l'Europe a constamment joué, si vous voulez, le rôle d'informatrice pour les régions et questions coloniales vis-à-vis de l'Amérique. Donc dans les années 50, si vous voulez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique qui apparaît comme la grande puissance, entre guillemets, du monde libre, s'est trouvée dans la nécessité de produire un savoir pour sa politique étrangère. Et ce savoir pour sa politique étrangère s'est concentré sur les langues et les régions qui étaient des régions coloniales. Donc il y a toute une série d'institutions qui sont créées et en ce sens, Kennedy va jouer un rôle très très important en lançant ce qu'il a appelé toute une série de task forces. Et ces task forces ont aidé les universités à commencer à créer, en dehors des études, si vous voulez, qu'on pourrait appeler orientales, à créer des véritables area studies, des études régionales, qui sont des études de langue, des études sur les cultures, des études sur les systèmes politiques. Et les études africaines sont nées dans ce contexte-là, avec un investissement très important de l'État fédéral qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Title VI, où l'État fédéral donne des ressources aux universités sur une base compétitive pour créer ces Area Studies Center ou Area Studies Department. Pour l'Afrique, dans certains cas, ça a beaucoup évolué. Il y a des universités qui ont de très très grands centres d'études africaines qui sont des centres indépendants avec un personnel académique. Dans d'autres, ce sont en devenant des départements, dans d'autres, ce sont des centres où on met ensemble les études africaines américaines et les études africaines, et dans d'autres, ce sont des programmes qui mettent ensemble différentes disciplines et différentes écoles, comme on dit aujourd'hui, de l'école de santé publique à l'école qui s'occupe d'art, School of Art, etc., etc., mais aussi ce qu'on appelle les sciences sociales ici, l'économie, la politique, la sociologie, etc., etc. Donc les études africaines sont nées dans ce contexte et sont très très développées en fait. Comme je disais, c'est à la fois en fait des spécialistes qui sont présents dans les départements mais qui se rencontrent aussi dans des institutions où en fait ce sont des spécialistes qui ont leur propre département. Par exemple, Harvard University a maintenant un département d'études africaines-américaines et africaines, tandis que Columbia n'a pas ce type de département. Il y a un institut de recherche et d'études africaines-américaines et il y a un institut d'études africaines, mais il y a aussi un institut d'études de l'Europe de l'Ouest, il y a un institut d'études de l'Europe de l'Est, il y a un institut d'études de l'Asie de l'Est. Il y a un institut d'études de l'Asie de l'Ouest, du Sud-Ouest, etc. Donc c'est un contexte très large. Les études africaines n'ont pas été créées d'elles-mêmes, mais ont fait partie d'un ensemble. Et c'est parce qu'elles font partie de cet ensemble qu'elles sont très très bien structurées à l'intérieur du système et ne posent absolument pas de problème. Alors que si vous comparez avec la France, en fait, l'un des problèmes, c'est qu'on a essayé d'incruster, si vous voulez, les études africaines à l'intérieur des disciplines. Et on a créé des centres d'études africaines, mais qui n'ont pas, dans une certaine mesure, à quelques rares exceptions, joué un rôle très, très, très important dans les structures universitaires. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Et ça dépend aussi, certaines institutions ont investi dans des études sur le développement africain, et d'autres ont beaucoup plus investi dans des recherches qui sont plutôt des recherches culturelles, des recherches artistiques, ce qu'on appelle les humanities. Plus que, en fait,
mais pour vous, la définition que vous donnez donc des African Studies, c'est une définition géographique stricto sensu. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait plus que ça.
Non, ici, institutionnellement, c'est géographique. Institutionnellement, ce sont les études qui portent sur les sociétés africaines. Et même, on peut... Et ça a été le débat depuis le début. Est-ce qu'on incorpore l'Afrique du Nord ou non ? L'Afrique du Nord et l'Égypte, ou est-ce que l'Afrique du Nord ou l'Égypte font partie de logiques qui sont beaucoup plus des logiques moyen-orientales. Donc au départ, c'est géographique. Maintenant, la question qui se pose, c'est de quelle manière ces études africaines font ou non partie de la conversation qui est la conversation disciplinaire, dans les différentes disciplines. Et ça, on le voit pour des trucs très simples. C'est-à-dire, si on regarde les grandes, en Amérique, en fait, les disciplines ont tout le temps eu de grandes structures, sont des grandes structures associatives. Donc, il y a de grandes associations universitaires de sociologues, de political scientists, d'histoire. Et ces associations se réunissent chaque année. Mais il y a aussi une association d'études africaines qui se réunit chaque année, où l'ensemble des disciplines et des pratiques autour de l'Afrique se rencontrent. Et ce qu'on constate, c'est la place très très importante que les africanistes jouent dans les associations professionnelles. Ce qui veut dire que l'Afrique fait partie, effectivement, d'une discussion qui est une discussion beaucoup plus large. La discussion ne se confine pas aux réalités africaines. C'est une discussion, c'est pour ça que je parlais de reciprocal comparison. C'est-à-dire, l'Afrique fait partie d'une grande conversation, qui est une conversation universitaire. En histoire, tous les débats autour de, en fait, les approches de ce qu'on appelle l'invention de la tradition en Afrique comparée aux approches des subaltern studies, la place de l'Afrique dans le débat autour des études postcoloniales, etc., sont des choses très très importantes, parce que c'est à la fois, si vous voulez, les formules qui semblent être spécifiquement africaines, mais aussi la manière dont les formules africaines s'insèrent dans des discussions coloniales, postcoloniales, qui sont beaucoup plus larges. Et c'est vrai que les africanistes ont joué un rôle très très important ici, par exemple dans le travail sur les traditions orales, dans le travail aussi sur ce qu'on a appelé le linguistique turn, ce qu'on a appelé aussi le cultural turn. Mais ce que je voulais faire, c'est faire juste la distinction entre African studies comme une réalité géographique, ce qui fait que la crise, ce qu'on a appelé la crise des area studies, dans les années 80-90, a profondément touché l'Afrique. Mais ce qui fait que le nombre, et ça on peut le voir pratiquement, le nombre de postes proposés avait considérablement diminué. Mais aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, on assiste à un retour de l'Afrique sur des études africaines, je veux dire, de manière beaucoup plus épistémologique, mais tout en gardant, parce que c'est ça la base théorique, le débat sur les area studies, le débat qui est devenu aussi un débat très important qu'on ne retrouve pas en France. Aujourd'hui, il y a un débat en Amérique entre les disciplines et les area studies, après la crise des area studies, finalement, et le passage. Parce que dans les années 80, la fin des années 80, le début des années 90, il y a eu un fort mouvement, à la fois académique, mais aussi des fondations, qui a été de dire, c'est la fin de la guerre froide, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, ce sont des études thématiques qui privilégient, si vous voulez, la comparaison, les comparaisons régionales. Et les gens ont essayé, et ça n'a pas l'air d'avoir très bien marché. Donc on est dans une certaine mesure revenu à une approche régionale, mais complètement transformée. Et des formules de comparatives qui ont aussi considérablement changé. Et un type de questionnement des méthodologies et des théories qui se sont considérablement enrichies. Et ça entraîne à la fois un retour, comme je disais, aux approches régionales. Dans les années 80-90, les postes ont considérablement diminué. Par exemple, en histoire que je connais le mieux, les gens sont passés d'une approche qui était une approche régionale, on parlait des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, à une approche qu'on a appelée World History, histoire internationale. Aujourd'hui, on est en train de poser des questions tout à fait nouvelles qui mettent l'accent sur de plus en plus ce qu'on appelle le moment post-disciplinaire, qui est beaucoup plus informé justement par ces logiques qui sont des logiques de redéfinition des area studies. Et l'Afrique est très très présente dans ces débats-là. Parce que aussi, surtout l'Asie et en particulier l'Inde est très très présente dans ce débat. Parce que en fait, il y a de nouvelles approches qui ont été en fait élaborées dans ces régions-là et qui ont des conséquences en dehors de ces régions. J'avais mentionné Pomerance tout à l'heure. En fait, la grande contribution de Pomerance sur cette discussion, c'est d'avoir pu en fait faire des comparaisons entre l'Europe et la Chine, comme l'actuel chef du département ici, qui est un spécialiste de sanskrit et de philologie, fait des études comparatives sur des questions qui sont des questions très précises, par exemple la querelle des anciens et des modernes, une comparaison entre l'Inde et la France autour de deux notions, l'universalisme et la modernité. Donc on sort, si vous voulez, à la fois du référent occidental comme seul référent. Maintenant, les gens parlent de modernité alternative, d'un universalisme illimité de type occidental par rapport à un universalisme fini qui reconnaît le pluralisme, etc. etc. Donc c'est, si vous voulez, dans ce débat que l'Afrique joue un rôle ici, dans ce débat de type, comme je disais, dans ce débat de type comparatif.
Alors je voudrais justement revenir sur un parallèle que vous avez fait tout à l'heure et que vous faites, surtout dans un livre que vous avez publié sur l'Inde, enfin sur l'historiographie indienne. Bon. Et dans l'introduction de ce livre que vous signez, vous faites une comparaison qui est très éclairante entre... vous replacez les African Studies dans tout le mouvement des post-colonial studies qui est né précisément dans l'ère des études indiennes. Bon. Et ce sont, vous le savez mieux que moi, des historiens, des chercheurs indiens qui ont apporté justement les concepts les plus importants pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la post-colonie ou la, les études post-coloniales. Est-ce que vous pouvez revenir sur la place des African Studies dans l'ère des études post-coloniales? Quel a été le rôle justement, entre, enfin le lien entre l'Afrique et la post-colonialité indienne à l'origine?
C'est à la fois un lien de type historique, mais c'est aussi un lien de type épistémologique. Le lien de type historique est simple, c'est qu'on a, on a souvent oublié que l'un des moments fondateurs justement de la post-colonialité, politiquement et théoriquement, c'est Bandung, la rencontre entre les Africains et les Asiatiques. Mais cette rencontre a été préparée avant. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours entendu Senghor citer Tagore. Je connaissais pas. J'avais une vague idée que c'était un philosophe et un romancier bengali. Senghor a insisté sur l'idée qu'il venait du Bengale. Mais quand j'ai découvert les Subaltern Studies et j'ai commencé à lire en fait sur l'Inde et à lire intensivement sur l'Inde, j'ai commencé à découvrir Tagore et au rôle qu'il a joué à la fois dans une espèce de reconstruction, non pas d'un monde indien qui reviendrait à ses origines et à ses sources, mais d'un monde indien qui se produit dans la confrontation entre ce qu'on pourrait appeler un savoir vernaculaire et une culture coloniale, et dans la manière de penser à la fois le nationalisme et la modernité, mais à la fois à partir de l'expérience indienne pré-coloniale et coloniale, mais aussi dans un rapport avec un monde plus ouvert. Tagore a énormément voyagé, il a énormément lu et il a essayé de comprendre. Ce qui montre qu'il y a eu, et c'est ça qui est fondamental, sur lequel les gens qui sont contre ce qu'on appelle l'approche postcoloniale devraient en fait prêter une attention plus importante. Les sujets coloniaux français d'Afrique, dans la métropole, ont toujours été en conversation avec les sujets coloniaux français de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Il y a constamment eu au débat, à l'intérieur des organisations universitaires, à l'intérieur des organisations anticoloniales, à l'intérieur du Parti communiste français. En Angleterre, c'était la même chose. Et cette conversation a alimenté considérablement l'idéologie, les comportements et les pratiques dans les colonies. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'effectivement, quand on commence à se poser des questions, non seulement à l'intérieur de ces territoires, qui sont des territoires coloniaux, mais qu'on se pose des questions dans le positionnement de ces territoires à l'intérieur des empires, on comprend plus. Et c'est ça, en fait, les logiques postcoloniales. C'est-à-dire, c'est à la fois de comprendre comment la métropole agit sur les colonies, mais en retour, comment les métropoles reformulent des pratiques qui sont des pratiques métropolitaines. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des histoires séparées, dont la seule formulation, dont le seul lien est la domination, on comprend des histoires qui sont des histoires qu'on appelle aujourd'hui de transactions et de mouvements d'hommes et de femmes, de mouvements de richesses, de mouvements d'idées et de mouvements de pratiques. On ne se rend pas compte que les formes répressives coloniales en Afrique et en Inde ont à certains moments été en fait exportées est pratiquée par des agents coloniaux qui reviennent en métropole, surtout les policiers, dans des pratiques policières métropolitaines. Donc, vous voyez, il y a cela déjà. Le deuxième mouvement qui est beaucoup plus épistémologique et qui va avec cette, avec cette conversation, en fait, entre sujets coloniaux qui partagent leur expérience, c'est en fait la question de savoir comment repenser une histoire dont la forme, les objets, mais aussi la signification est fortement marquée par le référent métropolitain. Il y a la recherche d'une histoire et la recherche d'une narration qui entraîne, en fait, si vous voulez, le questionnement des concepts que nous-mêmes nous utilisons. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, tous les concepts historiques politiques que nous utilisons sont des concepts forgés ailleurs. Comment réagissent par rapport à l'expérience que nous tentons d'analyser devient une question cruciale. Et c'est ça que les subalternes studies, c'est ça que les études postcoloniales ont ouvert. C'est la possibilité de penser hors du référent et d'engager ce référent. Non pas de le refuser parce qu'il est là, parce qu'il joue un rôle, mais de le repenser à partir, de repenser les concepts à partir d'une réalité qui est autre, qui est marquée effectivement par l'expérience coloniale, mais qui ne peut pas se réduire uniquement à cette expérience-là. Et c'est aussi simple. C'est qu'est-ce qui arrive au monde, comme dit Stuart Hall, quand en 1492, Christophe Colomb établit ce qu'il appelle, lui, le premier contact maritime. Et c'est ça le début, en fait, de ce qu'on appelle les colonial and post-colonial studies. C'est qu'est-ce qui se passe? Peut-on justement n'accepter que la production des autres par l'Europe? Ou est-ce que les autres aussi participent à la production de l'Europe et à leur propre production? Donc les colonial studies, c'est la capacité de libérer le discours, la pensée et les concepts, en fait, de ce piège qui est le piège du référent. Et c'est pour ça que les colonial studies se sont préoccupés de comprendre la narration qui est la narration des Lumières, qui fabrique l'universel à partir de l'expérience européenne, mais en effaçant dans le même mouvement ce lieu géographique. C'est pour ça que le retour au lieu géographique n'est pas seulement, si vous voulez, intellectuel, mais il est aussi politique. C'est-à-dire, quand on parle des area studies, ce n'est pas seulement l'idée qu'on s'évertue à comprendre un lieu, mais on s'évertue à comprendre un lieu qui est aussi produit par un non-lieu, qui s'accapare l'humanité et l'espace et qui vous renvoie toujours à sa leçon. Et pour moi, les post-colonial studies, c'est ça que ça donne. C'est la capacité de produire une narration qui n'est pas validée, dont la validation n'est pas exclusivement européenne, mais qui dont les mécanismes de validation peuvent être produits. L'un de mes collègues ici qui s'appelle Pat Chatterjee, qui travaille sur l'Inde et la nation. Et c'est pour ça que, en fait, la plus grande critique des études postcoloniales, c'est même pas la critique de l'Europe et de sa prétention universaliste. C'est plutôt la critique de la production de ces lieux non européens par, en fait, par les classes dirigeantes. Et la nécessité de retrouver un discours qui a été réprimé et subordonné, en fait, à la mission pédagogique des classes dirigeantes. Ça a été plus contre l'histoire officielle nationaliste que contre, en fait, la narration coloniale. Donc, la question qui se pose, qui est une question importante, c'est effectivement aujourd'hui la possibilité de produire une narration qui s'alimente de pratiques de lieu, mais dans une perspective qui est une perspective comparative.
Alors, je voudrais vous poser une question sur l'universel que vous avez abordé tout à l'heure dans votre réponse. Et pour poser cette question, je vais curieusement partir du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. On vous a beaucoup interrogé sur ce discours, donc je n'y reviens pas. Mais au-delà de la bêtise de ce discours, au-delà de du provincialisme qu'il exprime, j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme d'angoisse à l'idée qu'il y a un universalisme qui est en train de s'ébaucher. C'est un universalisme sans la France, bien sûr, mais aussi sans l'Europe. Et la question que je voudrais vous poser, justement, c'est celle de l'émergence d'un universalisme sans l'Occident, qui naîtrait avec la multiplication des cultures du monde entier, et qui, en particulier, prendrait sa source en Afrique. Et je crois que vous avez utilisé une expression, je crois qu'elle est de vous, qui m'a frappé, c'est celle d'universalisme africain.
Absolument, mais vous savez, il y a un intérêt d'abord à faire la distinction entre ce que j'appelle l'universalisme à la française, qui n'est pas nécessairement, même si philosophiquement c'est possible, l'expression la plus vivante de cet universalisme, qu'il y a différentes manières de comprendre l'universalisme. Et l'universalisme en anglaise est différent de l'universalisme en français. Et si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler cette espèce d'universalisme global qui se répond, qui est un universalisme multiculturel, en fait le modèle est un modèle anglais, donc européen, mais sur cette île qui est atlantique. Et moi, je l'appellerais un modèle atlantique que l'océan Indien a pris en charge. Même si ce modèle atlantique nouveau s'est créé sur la base, en fait, d'un impérialisme culturel qui a eu vocation de détruire toutes les cultures, y compris, en fait, cet universalisme que certains de mes collègues appellent l'universalisme fini de l'océan Indien, qui était un universalisme convivial. Il y a un très très bon livre, quelqu'un qui préparait une thèse et qui est devenu un des grands romanciers contemporains, Amaritav Ghosh, In an Antique Land, où la thèse qu'il avance, c'est que l'arrivée des Portugais détruit une culture conviviale aux Juifs, musulmans, hindous et chrétiens, et quelques chrétiens vivaient ensemble, échanger sans grande crise. Le deuxième constat qu'on devrait faire, surtout pour l'Europe, et c'est ça qui probablement explique cette crispation pour revenir à un universalisme qui s'impose à tous, surtout en France, l'idée de refus de ce qu'on appelle cette espèce de refus obsédé du communautarisme. C'est précisément parce que la France est devenue de fait multiculturelle, qu'on l'accepte ou non, que ce multiculturalisme soit reconnu institutionnellement ou non. La France a changé et continuera de changer. Et les cultures qu'on appelait des autres, qui ne sont plus les cultures des autres, l'islam est une religion française. L'islam est une religion anglaise. L'islam est une religion hollandaise, qu'on le veuille ou non. Ces gens ne sont plus des Marocains, ne sont plus des Sénégalais. Ils sont français. Et c'est ça qu'il va falloir construire. Et c'est pour cela qu'il va falloir incorporer leur mémoire dans les lieux de mémoire de la France. Ce que Nora ne fait pas. Nora est prêt à intégrer les mémoires des mineurs polonais qui sont arrivés en Europe de l'Est, les mémoires des Italiens, mais il n'est pas prêt à incorporer les mémoires des Algériens, mais parce que, à cause de la religion. Mais cette religion, elle est française. Mais on oublie aussi que la France, au XIXe siècle, s'est décrétée une puissance musulmane. On oublie ça aussi. C'est-à-dire que, qu'il y a en fait des espèces de fictions qui font partie de la nation française, qui auraient pu aider à reconstruire cette nation en prenant en compte en fait ces nouvelles additions, au lieu de continuer à les construire comme des gens à la périphérie de la nation, alors qu'ils sont au cœur de cette nation et qu'ils vont se battre pour être inclus au cœur de cette nation. Donc pour moi c'est cela, c'est un universel qui se construit dans l'addition. Ce n'est plus un universel imposé par la force ou imposé par la réussite, qu'elle soit, qu'on la décrète comme une réussite morale, une réussite religieuse ou une réussite technique. Parce que ce monde qui suivait cette trajectoire du progrès, ascendante du progrès, c'est ce monde-là qui a explosé. Et c'est ce que Baudrillard a dit dans un de ses fameux papiers dans Libération, que si la mondialisation des technologies se réalise, ce qui est en fait aujourd'hui complètement en éclat, justement, c'est l'universalisme qui a été porté, et ça on l'oublie, et c'est pour cela qu'elle pose, en fait, c'est pour cela qu'il pose problème aujourd'hui. L'universalisme et la modernité sont arrivés dans toutes ces sociétés non occidentales, accompagnées par une chose, la violence. Et c'est pour ça que cet universalisme et cette modernité sont remis en cause. Comme essence, pas comme pratique, mais comme essence, et c'est vrai. Et c'est aujourd'hui ça le problème que l'Europe est en train de vivre, mais c'est une Europe qui est en phase de transition et qui n'arrive pas à gérer cette transition de manière tout à fait sereine. Mais il y a certains, et c'est ça qui est intéressant, il y a certains leaders européens qui s'en rendent très bien compte. C'est pour ça que pour moi Sarkozy n'est pas important. Parce qu'en face de Sarkozy, Sarkozy répète des choses qui sont, en fait, c'est la vieille idéologie du 19e siècle. Et du 19e siècle finissant. Et cette idéologie, elle a été remise en cause par les premiers intellectuels noirs en Amérique, en Europe, etc. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que ça ne valait même pas la peine de répondre à Sarkozy. C'est une perte de temps. Je veux dire, répéter ce que Senghor, les Césaire, les Firmé en ténor ont déjà fait, je ne vois pas la nécessité. Vous voyez, mais redécouvrir cela, c'est important. Tous les débats autour de la race, l'importance ou la non-importance de la race, cette histoire-là qui fait que la race a été remise en cause par les Noirs eux-mêmes pour revenir et jouer un rôle essentiel dans la construction d'une identité culturelle. Pour moi, c'est cette pédagogie qui est importante, parce que cette pédagogie participe justement d'une reformulation de l'universel. Et comme je disais, face à Sarkozy, on peut trouver l'archevêque de Canterbury. L'archevêque de Canterbury, en février l'année dernière, a présenté cette extraordinaire conférence où il commençait en disant « Au fond, l'Europe aujourd'hui doit se poser une question simple. C'est qu'il y a des populations qui viennent d'ailleurs. Une manière de comprendre les matières civiles différentes. » Et il dit, face à cela, il y a lieu en Europe aujourd'hui d'accepter qu'après avoir résolu les questions, en particulier les questions liées au genre, que l'Europe doit imaginer, créer des institutions qui sont des institutions de la charia, mais aussi des institutions juives, pour gérer en fait les questions qui sont les questions civiles du mariage, de l'héritage, etc. Proposition tout à fait logique. Les réactions, ça a été, tout le monde lui est tombé dessus. Mais je pense que face à l'extraordinaire ignorance de Sarkozy, c'est justement ces leaders en particulier ces leaders religieux qui comprennent effectivement les situations dans lesquelles nous vivons et qui repensent l'Europe à partir de la présence de ces communautés. C'est cela l'avenir, à la fois de l'Europe, mais c'est aussi l'avenir de cette conversation globale dans laquelle nous vivons, qui fait qu'effectivement il y a des choses qui se passent, qui se passent très bien, ou bien des choses qui sont très négatives. Il y a des questions qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas, mais qu'il va falloir soulever. Et ce n'est pas seulement ici, mais c'est aussi en Afrique. Il y a des responsabilités africaines qu'il faut mettre sur la table, qui sont aussi importantes que le dialogue sur les responsabilités des autres. Pas seulement en ce qui concerne l'Afrique, mais en ce qui concerne ce que Senghor appelait. Et c'est ça que Senghor, en reprenant Teilhard de Chardin, en fait disait, c'est-à-dire cette civilisation de l'universitaire qui n'est pas un acquis, mais qui est un projet.
Alors, je voudrais vous poser un dernier ensemble de questions. Vous êtes, c'est ce que j'ai l'impression, et puis vous me corrigerez si je me trompe, vous êtes un enfant de la négritude, de Césaire, de Senghor, ou même de l'histoire négrocentrée de Cheikh Anta Diop, par-delà les oppositions politiques entre lui et Senghor. Bien après les États-Unis, enfin plusieurs décennies après les États-Unis, on constate en France l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une conscience noire. Je vous donne deux exemples. Le récent livre de Pap Ndiaye qui s'appelle « La condition noire » et la création du Conseil représentatif des associations noires. Que pensez-vous de cette évolution ?
En fait, j'ai participé plus ou moins directement à la création du Conseil. Et pour moi, ce qui est important, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi il a été décrété qu'il n'était pas possible d'avoir des associations représentatives sur cette base-là, la base de la race ou de la couleur en France. Ce qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'est absolument pas conforme à l'histoire de la France. Moi, je fais partie d'une communauté dont probablement les premières populations qui sont devenues citoyennes le sont devenues dans le contexte de la Révolution française. Et les derniers ont été reconnus en 1887, ce qu'on appelle les quatre communes sénégalaises. Et cette citoyenneté, autour de laquelle il y a constamment eu une bataille, parce que la majorité de cette population était musulmane, ils ne voulaient pas respecter le code civil.
Et on leur a permis d'avoir leur propre loi civile.
Mais non seulement on leur a permis ça, les tribunaux musulmans qui ont été créés à partir de 1857 par les Français. Et en fait, c'est le pouvoir postcolonial qui les détruit. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cela leur a été reconnu, et c'est le seul cas dans toute l'histoire de la France, par la loi 1916. Et quand les gens débattent de cette loi de 1916, le représentant qui est le premier noir
député
à l'Assemblée, Blaise Diagne dit textuellement, la citoyenneté, c'est une question de droit, c'est pas une question de culture. Et le débat a été conduit sur cette base. Donc ce n'est pas du tout contrairement à ce qu'on raconte, un débat nouveau. Donc la possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de construire une mémoire et une histoire pour ces Français-là est devenue essentielle pour créer, pour recréer la nation. Parce que la nation est une création permanente, comme disait Michelet. Elle doit additionner, même si elle doit aussi retrancher. Et aujourd'hui, c'est ça la demande de ces gens qui s'appellent les indigènes de la République. C'est la capacité de recréer une nation. Et le fait qu'on accepte qu'elle soit recréée dans le football, le basket ou le handball, mais qu'elle ne soit pas recréée en d'autres lieux, c'est ça qui pose problème. C'est pas du tout, en fait, des gens qui font des demandes, mais c'est l'idée que le citoyen a besoin de s'exprimer. Et la manière dont il s'exprime est profondément marquée par sa culture. Donc je pense que ce sont des choses qui sont des choses très positives. Et qui qu'on le veuille ou non, pour moi, il y a certaines choses, c'est les dernières résistances républicaines. Mais ces résistances vont changer parce que la France est en train de changer, parce qu'elle ne peut pas ne pas changer. Donc ça, c'est pour moi la première réponse. La deuxième réponse qui me semble essentielle, en fait, qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est qu'au fond, je ne comprends pas le projet, si vous voulez, qui est le projet de la France. C'est-à-dire, est-ce que ce projet est un projet qui va continuer à s'alimenter d'une histoire propre à la France? Ou est-ce que c'est un projet qui va être un projet qui va s'ouvrir à l'Europe dans son ensemble? Et je pense que c'est cela qui va arriver aussi. C'est l'Europe elle-même. C'est le cadre européen qui va ouvrir, en fait, aux autres, si vous voulez, un espace culturel, un espace politique et un espace de droit qui le probablement permettrait une meilleure expression.
Alors, dans l'expression identité noire que certains intellectuels reprennent en France ou ailleurs dans le monde, ou dans l'expression négritude, est-ce que vous décelez une forme de conscience nationale, supra-étatique, ou est-ce que vous y voyez plutôt les grands thèmes de la post-colonialité, c'est-à-dire l'hybridation ou l'hybridité, la symbiose, le métissage?
Je pense que c'est le métissage. Vous savez, la négritude, comme dit Senghor, est une formule réactive. Et la négritude senghorienne, comme la négritude césarienne, sont des négritudes de contestation et d'ouverture de la narration occidentale. Ce qu'ils font, c'est remettre l'Afrique dans un texte qui l'expulse. Ce n'est pas une tentative de reconstruire une identité autonome, mais c'est une tentative de réécrire la narration universaliste et de replacer l'Afrique dans cette narration. Parce que l'Afrique, c'est en fait le côté obscur des Lumières. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que, un, nous refusons l'universalisme autoritaire des Lumières. Deux, nous refusons en fait sa sélection et sa sélectivité. Donc la négritude n'est absolument pas, contrairement à ce que les gens disent, une formule essentialiste. La négritude est un discours qui est un discours essentialiste critique, pour reprendre une expression de mon collègue Spivak. C'est-à-dire la seule manière de contrer un essentialisme, qui est l'essentialisme des Lumières, c'est de créer un contre-essentialisme qu'elle appelle critical essentialism, qui permet effectivement une critique systématique. Et Césaire le reprend très bien en disant que l'idée, c'est à la fois de refuser cet universalisme abstrait, mais de refuser aussi les exigences d'un particularisme trop fondamentaliste, si vous voulez. Et c'est entre les deux. Donc, qu'est-ce que Senghor dit? Senghor dit justement, l'universalisme est un projet, et ce projet doit être alimenté. Et il est alimenté par ce que Césaire appellera les contributions au rendez-vous du donner et du recevoir, que toutes les sociétés doivent y participer. Et cette logique est assez différente, même quelque part complémentaire, avec ce que dit Cheikh aussi. Disons cette reconstruction, cette recherche d'un référent qui est un référent qui ne peut pas être soumis au regard qui est le regard européen qui rend l'Afrique une Afrique subordonnée. Et ça, c'est même pas Cheikh qui l'a pensé. En fait, toute la tradition intellectuelle noire américaine a utilisé deux pôles pour mettre l'Afrique au début de l'histoire. Un pôle qui est un pôle qu'on pourrait appeler laïque, l'Égypte, qui est une civilisation noire selon la littérature ancienne, Hérodote en particulier. Et en fait, l'inscription de l'Afrique dans l'histoire universelle de la chrétienté avec l'Éthiopie et la reine de Saba. Donc ça, ça a toujours été là. Ça fait partie de ce discours qui est un discours non pas de rupture, mais qui est un discours d'intégration. C'est-à-dire que le débat pour ces gens-là, ce n'était absolument pas un débat pour forger un universalisme, si vous voulez, qu'on pourrait appeler un africain, mais c'est pour reconstruire un faux universalisme, selon eux, qui est l'universalisme européen, et revenir à ce vrai universalisme. Et c'est intéressant de voir que quelquefois, par exemple chez Senghor, il a été profondément marqué par le père Teilhard de Chardin et sa cosmologie universaliste. C'est-à-dire qu'il y a une fusion de toutes les différences pour créer, en fait. Et moi, je n'ai pas été fondamentalement... Je redécouvre Senghor, que j'avais lu, comme tout le monde, qui m'était politiquement complètement antipathique. J'étais anti-senghorien, politiquement, je le suis encore. Mais ce que j'ai constaté dans les 10-15 dernières années, c'est qu'on n'a pas lu attentivement. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est de redécouvrir cela. Chez Hanta, pour moi, c'est une narration comme une autre. C'est une narration beaucoup plus philosophique qu'historique. Et c'est un point d'ancrage qui est essentiel et qui n'est pas nécessairement important d'interroger scientifiquement, mais qui fait partie, si vous voulez, d'une bibliothèque culturelle, d'une bibliothèque épistémologique qui est essentielle. Pour moi, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de continuer ces interrogations. Malheureusement, il n'y a pas, en fait, cette continuation des interrogations. Ce à quoi on assiste, c'est des gens qui lui sont opposés ou des gens qui lui sont favorables. Et dans les deux cas, il n'y a pas un travail considérable, si vous voulez, d'apport critique à son œuvre. Mais moi, intellectuellement, ce qui m'intéresse avec l'œuvre de Cheikh Anta, c'est ces formules, en fait, qui sont des formules idéologiques, plus que toute autre chose. C'est que à quoi cette œuvre a-t-elle servi? Et à quoi peut-elle servir dans les débats qui sont les débats politiques et les débats idéologiques sur la production du savoir et le rôle du savoir dans les formes de domination.
Alors, je voudrais vous poser une dernière question qui concerne votre activité militante, si je puis dire, et votre recherche. J'ai l'impression que chez vous, la recherche, la connaissance est inséparable du travail du militant, pour employer un mot un petit peu pompeux. Et d'où votre intérêt, par exemple, pour Cheikh Anta Diop, qui relie, comme vous savez, l'antiquité négro-égyptienne au problème culturel de l'Afrique aujourd'hui, je le cite. Et vous-même, vous rendez souvent hommage au combat mené par des générations d'intellectuels noirs, africains ou africains-américains, caribéens, etc. Donc, la question avec laquelle je voudrais terminer cet entretien, c'est une phrase très connue de Frédéric Douglass, que je me permets de vous lire dans le texte. « If there is no struggle, there is no progress. Those who profess to favor freedom and depreciate agitation are men who want crops without plowing up the ground. They want rain without thunder and lightning. » Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette affirmation? Et pour reprendre un peu l'expression de Frédéric Douglass, quelle est votre manière à vous de labourer le sol ou de faire entendre le tonnerre?
Je me reconnais dans la phrase de Douglass et je l'interprète à ma manière. C'est que fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas valider la pratique militante par des connaissances scientifiques ni l'inverse. Mais il y a des convergences et des divergences entre les deux. Je peux avoir une pratique militante qui serait contredite par la vérité entre guillemets scientifique. Parce que la pratique militante est beaucoup plus pour moi du domaine de la foi entre guillemets que du domaine du savoir. C'est du domaine de l'engagement et de l'engagement militant qui quelquefois malheureusement ou heureusement est aveugle à certaines réalités qui sont les réalités de la connaissance. Mais ce que je pense d'essentiel en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, c'est que pour moi, ma pratique militante est associée à ma participation, à ma contribution au questionnement. C'est-à-dire pour moi, ce qui est essentiel, le lieu de convergence entre à la fois ma profession et ma citoyenneté, c'est la participation critique à la discussion. Et j'insiste sur le mot critique, parce que c'est cela qui est essentiel. Pour moi, l'historien, le travail de l'historien, c'est la proposition, ce sont des propositions critiques, la possibilité de poser les questions les plus difficiles à tout discours et à toute réalité. Donc, je ne suis pas nécessairement tout le temps, en fait, dans une posture de militant. Il y a des choses que je fais, c'est parce que c'est purement intellectuel. Il y a un plaisir intellectuel à faire certaines choses qui n'ont rien à voir, en fait, avec mon militantisme. C'est pour ça que mon approche, l'approche que j'ai de chez Ranta est totalement différente. C'est, dans la plupart des cas, ce n'est pas une approche d'historien, mais c'est une approche de quelqu'un qui essaie de comprendre comment cette pensée s'inscrit dans un environnement culturel et politique dans lequel, en fait, dans lequel l'intellectuel veut intervenir. Et quel rôle l'intelligence joue-t-elle dans la compréhension des situations et dans leur transformation. Ce qui veut dire qu'il y a des artifices, il y a des subterfuges qu'il faut comprendre. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un élément critique de compréhension de ces choses-là pour précisément construire des passerelles entre différentes choses et essayer d'ouvrir un espace dans lequel, comme je disais tout à l'heure, cet espace est un espace de transaction, est un espace où les différences sont à la fois maintenues, mais ces différences, en fait, s'alimentent les unes les autres pour créer des réalités qui sont des réalités nouvelles. C'est aujourd'hui ce que les gens appellent hybridité, parce que c'est comme cela que ça fonctionne. Il n'y a pas des oppositions frontales constantes. Ce n'est pas ce que l'histoire nous enseigne. L'histoire nous enseigne justement les manières différentes dont des formes d'appropriation, d'inclusion et d'exclusion s'effectuent, mais dans une situation où précisément, et c'est là où l'humanité est très intéressante, dans des situations où forcément ce qui est emprunté et retravaillé pour être domestiqué et perdre justement sa capacité d'emprunt. Et pour moi, c'est cette espèce de plasticité et d'instabilité et qui est essentielle à la fois dans le travail qu'on peut faire sur des histoires qui se déroulent, mais aussi dans la manière dont l'histoire devient aussi une matière première pour une histoire en devenir. Pour moi, c'est cela, en fait, c'est cela qui m'intéresse. Comme historien qui travaille sur l'Afrique, mais qui essaie aussi de comprendre, comme je dis, l'Afrique dans le monde, mais aussi comme quelqu'un qui s'intéresse aux sociétés africaines.